ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება.
Vous allez voir apparaître des questions sur votre écran. Répondez aux questions en écoutant l'enregistrement. Si vous n'entendez pas bien l'enregistrement, veuillez lever la main.
Exercice 1. Vous allez écouter une interview avec un artiste célèbre, Jean-Christian Michel. Indiquez la bonne réponse A, B ou C pour chaque question de 1 à 12. Vous avez maintenant 45 secondes pour lire les questions. Vous entendrez l'enregistrement deux fois.
Aujourd'hui, notre invité est un musicien célèbre Jean-Christian Michel. Bonjour. Vous avez fait vos études de clarinette au conservatoire et parallèlement vous avez entrepris des études de médecine. Jeune chirurgien, vous avez renoncé à votre métier pour commencer une carrière de concertiste international. Puis vous avez connu l'extraordinaire destin d'une star. Vous avez été récompensé par 3 disques de diamant et une dizaine de disques d'or avec plus de 5 millions d'albums vendus. À côté de votre art musical, vous avez su trouver un art de vivre. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait l'ascension des neiges du Kilimandjaro, vous avez fait de nombreuses expéditions au Népal, en Asie, en Himalaya. Comment expliquez-vous ce parcours pour le moins inhabituel? Nous sommes curieux de mieux connaître votre art. Votre vie et votre art de vivre.
Depuis mon enfance, je n'ai rêvé que de liberté, de beauté et d'art nouveau. Découvrir ce que l'on ne connaît pas, ou inventer ce qui n'existe pas encore, n'est-il pas l'une des choses les plus passionnantes de la vie? Mon père m'a appris à aimer la difficulté et à ne pas avoir peur de conquérir l'impossible. Il m'a donné le goût d'effort et du dépassement de soi. Je lui en suis infiniment reconnaissant. S'il est vrai que j'ai terminé mes études de médecine et de chirurgie pour avoir un métier sérieux, et donc, un peu pour faire plaisir à mes parents, il s'est vite révélé que ma véritable vocation était la musique. J'ai donc mené deux carrières de front, intégrant l'art musical à ma vie d'étudiant en médecine, au prix d'un travail dur, mais passionnant. La musique a fini à s'imposer à moi. Cet art majeur m'était aussi indispensable que la nécessité de boire et de respirer.
Vous avez commencé votre initiation à la musique par l'étude de la musique classique, mais j'ai compris que vous aimiez profondément toutes les musiques. À quel âge vous êtes-vous découvert un élan pour la musique de jazz?
J'ai toujours apprécié la créativité, la chaleur, l'audace de la musique de jazz. Je l'ai découverte à l'adolescence. J'ai admiré avec quel art les musiciens de jazz exprimaient leur force de vie. L'histoire du jazz et du gospel liée à la vie de ces malheureux esclaves déracinés d'Afrique est passionnante. Je n'ai pu résister à l'envie d'apprendre l'improvisation et de commencer à jouer du blues. J'étais tellement passionné que je me suis mis à créer des arrangements originaux, ce qui m'a poussé à appeler mes copains de fac. Et j'ai créé avec eux un petit orchestre de jazz. Mon initiative a porté ses fruits. Nous avons participé à des festivals comme le Festival de Canastel et la Semaine internationale de jazz de Roanne-les-Pins. J'ai eu le bonheur de jouer avec des musiciens de légende Stéphane Grappelli, Kenny Clarke, Duke Ellington. Nous avons enregistré quelques disques et nous avons régulièrement joué dans des clubs de jazz réputés comme le Caveau de la Huchette à Paris.
Pourquoi avoir renoncé au jazz pour votre propre musique?
Lorsque j'ai composé mes premiers morceaux, je peux dire que j'ai commencé ma véritable vie. La musique dont je rêvais n'existait pas, il fallait donc la créer. Il faut bien dire qu'inventer est une joie particulièrement excitante. L'art de composition est une vraie drogue. En créant ma propre musique, j'ai eu le besoin de fondre le jazz avec l'orgue d'église. Cela m'a conduit à croiser jazz et musique sacrée des cathédrales pour donner le jour à une expression novatrice.
Vous avez vite connu un succès phénoménal et votre musique a fait le tour du monde.
J'ai eu d'abord le plaisir de retrouver certains de mes anciens amis musiciens. J'ai pu ainsi enregistrer mes disques et me produire en concert. Puis, ma musique a conquis un large public, bien au-delà de nos frontières, avec des disques distribués pratiquement sur les 5 continents et des concerts donnés partout à guichets fermés. En retour, la culture de chaque pays a nourri mon inspiration. C'est ainsi que je me suis imprégné des philosophies et des mélodies de l'Inde, du Népal et du Tibet secret. À l'occasion d'un concert à Los Angeles, j'ai sympathisé avec de nouveaux accompagnateurs américains qui m'ont fait découvrir des synthétiseurs que je ne connaissais pas, et m'ont initié à l'art de la musique assistée par ordinateur. En Europe, j'ai joué à la tribune de l'orgue des cathédrales dans presque toutes les grandes capitales.
C'est vrai. Vous avez été l'initiateur des concerts en église. Pourquoi les églises ?
Indépendamment de mes convictions personnelles, j'ai le sentiment que l'église est le lieu privilégié où l'homme, protégé des artifices de la civilisation, se retrouve face à lui-même. Avec la chance de rejoindre sa vraie dimension intérieure, il peut ainsi échapper à l'espace-temps, s'isoler de l'époque et de l'endroit où il vit, oublier les mégapoles, fuir le stress de l'information, des agressions quotidiennes de toutes sortes et enfin, vibrer avec autre chose que les néons de la ville. L'acoustique réverbérant d'une église ou d'une basilique a été étudiée et on peut conclure qu'elle est idéale, avec une part de magie. Ma musique qui s'adresse au monde du dedans s'épanouit merveilleusement sous les voûtes des cathédrales, qui sont, il ne faut pas l'oublier, un patrimoine architectural inestimable, d'authentiques joyaux dédiés à l'esprit. De tels lieux influent sur la musique.
Merci Jean-Christian pour cette rencontre. Aujourd'hui, notre invité est un musicien célèbre Jean-Christian Michel. Bonjour. Vous avez fait vos études de clarinette au conservatoire et parallèlement vous avez entrepris des études de médecine. Jeune chirurgien, vous avez renoncé à votre métier pour commencer une carrière de concertiste international. Puis vous avez connu l'extraordinaire destin d'une star. Vous avez été récompensé par 3 disques de diamant et une dizaine de disques d'or avec plus de 5 millions d'albums vendus. À côté de votre art musical, vous avez su trouver un art de vivre. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait l'ascension des neiges du Kilimandjaro, vous avez fait de nombreuses expéditions au Népal, en Asie, en Himalaya. Comment expliquez-vous ce parcours pour le moins inhabituel ? Nous sommes curieux de mieux connaître votre art, votre vie et votre art de vivre.
Depuis mon enfance, je n'ai rêvé que de liberté, de beauté et d'art nouveau. Découvrir ce que l'on ne connaît pas, ou inventer ce qui n'existe pas encore, n'est-il pas l'une des choses les plus passionnantes de la vie? Mon père m'a appris à aimer la difficulté et à ne pas avoir peur de conquérir l'impossible. Il m'a donné le goût de l'effort et du dépassement de soi. Je lui en suis infiniment reconnaissant. S'il est vrai que j'ai terminé mes études de médecine et de chirurgie pour avoir un métier sérieux, et donc, un peu pour faire plaisir à mes parents, il s'est vite révélé que ma véritable vocation était la musique. J'ai donc mené 2 carrières de front, intégrant l'art musical à ma vie d'étudiant en médecine, au prix d'un travail dur, mais passionnant. La musique a fini à s'imposer à moi. Cet art majeur m'était aussi indispensable que la nécessité de boire et de respirer.
Vous avez commencé votre initiation à la musique par l'étude de la musique classique, mais j'ai compris que vous aimiez profondément toutes les musiques. À quel âge vous êtes-vous découvert un élan pour la musique de jazz ?
J'ai toujours apprécié la créativité, la chaleur, l'audace de la musique de jazz. Je l'ai découverte à l'adolescence. J'ai admiré avec quel art les musiciens de jazz exprimaient leur force de vie. L'histoire du jazz et du gospel liée à la vie de ces malheureux esclaves déracinés d'Afrique est passionnante. Je n'ai pu résister à l'envie d'apprendre l'improvisation et de commencer à jouer du blues. J'étais tellement passionné que je me suis mis à créer des arrangements originaux, ce qui m'a poussé à appeler mes copains de fac. Et j'ai créé avec eux un petit orchestre de jazz. Mon initiative a porté ses fruits. Nous avons participé à des festivals comme le Festival de Canastel et la Semaine internationale de jazz de Roanne-les-Pins. J'ai eu le bonheur de jouer avec des musiciens de légende Stéphane Grappelli, Kenny Clarke, Duke Ellington. Nous avons enregistré quelques disques et nous avons régulièrement joué dans des clubs de jazz réputés comme le Caveau de la Huchette à Paris.
Pourquoi avoir renoncé au jazz pour votre propre musique ?
Lorsque j'ai composé mes premiers morceaux, je peux dire que j'ai commencé ma véritable vie. La musique dont je rêvais n'existait pas, il fallait donc la créer. Il faut bien dire qu'inventer est une joie particulièrement excitante. L'art de composition est une vraie drogue. En créant ma propre musique, j'ai eu le besoin de fondre le jazz avec l'orgue d'église. Cela m'a conduit à croiser jazz et musique sacrée des cathédrales pour donner le jour à une expression novatrice.
Vous avez vite connu un succès phénoménal et votre musique a fait le tour du monde.
J'ai eu d'abord le plaisir de retrouver certains de mes anciens amis musiciens. J'ai pu ainsi enregistrer mes disques et me produire en concert. Puis, ma musique a conquis un large public, bien au-delà de nos frontières, avec des disques distribués pratiquement sur les 5 continents et des concerts donnés partout à guichets fermés. En retour, la culture de chaque pays a nourri mon inspiration. C'est ainsi que je me suis imprégné des philosophies et des mélodies de l'Inde, du Népal et du Tibet secret. À l'occasion d'un concert à Los Angeles, j'ai sympathisé avec de nouveaux accompagnateurs américains qui m'ont fait découvrir des synthétiseurs que je ne connaissais pas et m'ont initié à l'art de la musique assistée par ordinateur. En Europe, j'ai joué à la tribune de l'orgue des cathédrales dans presque toutes les grandes capitales.
C'est vrai. Vous avez été l'initiateur des concerts en église. Pourquoi les églises ?
Indépendamment de mes convictions personnelles, j'ai le sentiment que l'église est le lieu privilégié où l'homme, protégé des artifices de la civilisation, se retrouve face à lui-même. Avec la chance de rejoindre sa vraie dimension intérieure, il peut ainsi échapper à l'espace-temps, s'isoler de l'époque et de l'endroit où il vit, oublier les mégapoles, fuir le stress de l'information, des agressions quotidiennes de toutes sortes et enfin, vibrer avec autre chose que les néons de la ville. L'acoustique réverbérante d'une église ou d'une basilique a été étudiée et on peut conclure qu'elle est idéale, avec une part de magie. Ma musique qui s'adresse au monde du dedans s'épanouit merveilleusement sous les voûtes des cathédrales, qui sont, il ne faut pas l'oublier, un patrimoine architectural inestimable, d'authentiques joyaux dédiés à l'esprit. De tels lieux influent sur la musique.
Merci Jean-Christian pour cette rencontre.
Exercice 2. Vous allez écouter les témoignages de 4 personnes concernant la notation des élèves dans des écoles. Associez les 4 témoignages, de 1 à 4, aux affirmations correspondantes de A à F. Attention, il y a 2 affirmations de trop. Vous écouterez l'enregistrement 2 fois. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les affirmations. Première personne.
Oui, les notes comptent, et heureusement, sinon les enfants deviendraient fainéants. Les notes sont le seul moyen pour les parents d'avoir une bonne visibilité sur le travail de leurs enfants à l'école. Il faut pouvoir observer les écarts entre les élèves et la progression. J'ai une fille de 6 ans, et même si elle n'est qu'au CP, je contrôle ses notes. Je trouve ça bien, ça la motive. Petit, un très bon résultat me valait une figurine Goldorak, alors je voulais être le meilleur.
Deuxième personne.
Toutes les études de docimologie montrent que la note n'a rien d'objectif. Elle varie en fonction d'une multitude de facteurs liés au correcteur, à l'ordre dans lequel il corrige les copies, aux informations préalables dont il dispose sur les élèves. En effet, elle diffère d'un enseignant à l'autre et selon le contexte. Il se peut qu'après avoir vu une mauvaise copie, un professeur met une très bonne note à la suivante qui ne mérite pourtant pas une si bonne évaluation. D'autre part, les enseignants ne sont pas exempts de vivre des situations personnelles difficiles et cela peut avoir un impact sur la notation des écoliers.
Troisième personne. À mon avis, les notes sont une pression pour les élèves en difficulté. Car un élève qui a du mal à suivre, a de mauvaises notes. Et au lieu de le pousser à progresser, elle le dégoûte. L'élève a l'impression d'être nul, perd confiance en lui, devient moins capable d'apprendre parce qu'il se sent incompétent. Je pense que quand les enfants sont hiérarchisés par la notation, ils s'identifient à celle-ci et angoissent à l'idée d'être mauvais pour toujours. Les notes donnent des étiquettes, l'un est nul, l'autre est brillant. Pire, ce sont des prophéties autoréalisatrices, dans le sens où l'enfant va pleinement s'identifier à ses notes et risque d'accumuler du retard. Quatrième personne.
La note est la mesure d'une compétence. Elle n'a pas pour seule vocation de juger un élève ni même de les comparer. Elle nous permet de savoir ce qui a été compris ou non et de mettre en place des exercices de remédiation qui permettront à chaque élève d'acquérir les compétences nécessaires à leur réussite scolaire. Les classes sont surchargées. J'ai moi-même un CE2 à 30 élèves. Sans notation, il me serait difficile de mesurer le degré de compréhension de chacun. Comment pourrais-je garantir un suivi équitable ? Un enseignement adapté à chacun de mes élèves sans prendre en compte les acquis des uns et les difficultés des autres. La notation me permet d'individualiser au maximum mon enseignement.
Première personne.
Oui, les notes comptent, et heureusement, sinon les enfants deviendraient fainéants. Les notes sont le seul moyen pour les parents d'avoir une bonne visibilité sur le travail de leurs enfants à l'école. Il faut pouvoir observer les écarts entre les élèves et la progression. J'ai une fille de 6 ans, et même si elle n'est qu'au CP, je contrôle ses notes. Je trouve ça bien, ça la motive. Petit, un très bon résultat me valait une figurine Goldorak, alors je voulais être le meilleur.
Deuxième personne.
Toutes les études de docimologie montrent que la note n'a rien d'objectif. Elle varie en fonction d'une multitude de facteurs liés au correcteur, à l'ordre dans lequel il corrige les copies, aux informations préalables dont il dispose sur les élèves. En effet, elle diffère d'un enseignant à l'autre et selon le contexte. Il se peut qu'après avoir vu une mauvaise copie, un professeur mette une très bonne note à la suivante qui ne mérite pourtant pas une si bonne évaluation. D'autre part, les enseignants ne sont pas exempts de vivre des situations personnelles difficiles et cela peut avoir un impact sur la notation des écoliers.
Troisième personne. À mon avis, les notes sont une pression pour les élèves en difficulté. Car un élève qui a du mal à suivre, a de mauvaises notes. Et au lieu de le pousser à progresser, elle le dégoûte. L'élève a l'impression d'être nul, perd confiance en lui, devient moins capable d'apprendre parce qu'il se sent incompétent. Je pense que quand les enfants sont hiérarchisés par la notation, il s'identifie à celle-ci et angoisse à l'idée d'être mauvais pour toujours. Les notes donnent des étiquettes, l'un est « nul », l'autre est « brillant ». Pire, ce sont des prophéties autoréalisatrices, dans le sens où l'enfant va pleinement s'identifier à ses notes et risque d'accumuler du retard. Quatrième personne.
La note est la mesure d'une compétence. Elle n'a pas pour seule vocation de juger un élève ni même de les comparer. Elle nous permet de savoir ce qui a été compris ou non et de mettre en place des exercices de remédiation qui permettront à chaque élève d'acquérir les compétences nécessaires à leur réussite scolaire. Les classes sont surchargées. J'ai moi-même un CE2 à 30 élèves. Sans notation, il me serait difficile de mesurer le degré de compréhension de chacun. Comment pourrais-je garantir un suivi équitable ? Un enseignement adapté à chacun de mes élèves sans prendre en compte les acquis des uns et les difficultés des autres. La notation me permet d'individualiser au maximum mon enseignement.
Fin de l'exercice de compréhension orale. Merci.
Musmenis davaleba dasrulebulia.